La première étape du combat, c'était de démontrer que le site était toujours pollué. Ben, on a fait les commandos, hein. On a pris les pelles, on a creusé un soir, on est passé en dessous, on est rentré en toute illégalité sur le fort. On est venu avec des compteurs GGR et en quelques heures de nuit, on a trouvé des zones qui étaient toujours contaminées, qui étaient contaminées par les expérimentations du commissariat à l'énergie atomique. Et je pense qu'on est sur le site le plus pollué d'Île-de-France, voire un des sites les plus pollués de France.
Vous écoutez Técologie.
Técologie,
le podcast qui questionne le rôle des technologies face aux enjeux écologiques.
Bonjour à toutes et tous, nouvel épisode de Técologie. On est en extérieur, au soleil, avec sans doute les chants d'oiseaux que vous allez entendre durant tout l'épisode. On est avec Christophe Nedelec. Christophe, tu es informaticien, musicien, sonothérapeute, apiculteur, botaniste amateur, militant écologiste, bon, une grande liste à la Prévert. Et à travers différentes associations, tu t'es battu contre la destruction de zones naturelles en Île-de-France. Alors déjà, bonjour Christophe.
Bonjour à tous les auditeurs de ce podcast.
Comment devient-on apiculteur ?
Ouais, apiculture, c'est un vaste sujet. Moi, j'avais commencé sur un rucher associatif, en fait, à Fontenay-sous-Bois. On avait installé 10 ruches à côté du bowling de la Matène, pour ceux qui connaissent Fontenay-sous-Bois, et on avait installé une dizaine de ruches là, et puis c'est comme ça que j'avais commencé, c'est-à-dire en donnant un coup de main au niveau du rucher associatif, et puis après j'ai commencé à avoir un terrain pas loin, au milieu de la ressource, comme on dit en apiculture, puis j'avais installé 2 ruches, et puis après les 2 ruches sont devenues 10 ruches, après elles sont devenues 20 ruches, après 30, 40, 50, 60, etc.
Comment vont les abeilles en Île-de-France ?
Bah, elles vont comme tous les insectes. C'est-à-dire que sans apiculture, il n'y a plus d'abeilles. Les insectes s'effondrent, la biomasse des insectes s'effondre. Les abeilles tiennent parce qu'il y a des apiculteurs qui s'en occupent, sinon elles ne seraient plus là. Donc elles ne se portent pas mieux qu'ailleurs. Ça fait partie de ce combat-là. Certains disent que c'est un combat contre l'inéluctabilité, l'apiculture.
Et tu m'indiquais donc en préparation du podcast que tu es sonothérapeute. C'est quoi la sonothérapie ?
Alors, c'est pas une science qui est totalement exacte, hein. C'est-à-dire qu'on est encore à des phases d'expérimentation. Il y a très peu d'études scientifiques sur ça, mais ça, en fait, c'est l'effet du son sur la psyché, sur le stress notamment, sur le travail au niveau du son et des états de conscience modifiés. Donc, je travaille surtout avec des gongs, avec des instruments en pierre, je fais de la lithophonie aussi. Et on fait des voyages, des expériences sonores qui permettent aux gens de fixer leurs intentions sur ces voyages-là pour aller justement révéler ou soulager ce qui des fois boue à l'intérieur de nous, quoi.
C'est un rapport avec quand même tes engagements écologistes, non ? C'est cette notion de se ressourcer, d'apprendre à s'écouter, non ?
Ben, tout est lié en fait, hein. Si je me suis battu pendant autant d'années, je pense que c'est parce que je me suis battu pour des endroits que j'aimais, pour des gens que j'aime aussi. En fait, quand on aime, on protège. Quand on aime, on soigne. Et en fait, tout part de là. Souvent, on se dit, ouais, on va militer parce qu'on a une mission, on le doit à la planète, ou quelque chose d'un peu christique comme ça. Mais en fait, quand on aime, on protège. Quand on aime, on soigne. Au même titre qu'on aime sa famille, au même titre qu'on aime ses enfants, au même titre qu'on soigne sa famille, qu'on soigne ses enfants, qu'on se soigne soi-même. Le respect de soi, c'est le respect de ce que l'on aime.
Concernant tes engagements écologiques, quelles sont les batailles que tu as menées au sein de différentes associations ? Tu peux peut-être en parler justement de ces associations-là. Et donc, quelles sont ces batailles-là et quelles sont celles que tu as gagnées avec ces collectifs ?
Alors oui, j'ai travaillé avec plusieurs associations dans l'Est parisien. Hein, donc, les Amis Naturalistes des Coteaux d'Avron, l'association que j'avais créée, les Abbesses de Ganichel. Les plus gros combats, on les a menés avec le collectif Sauvons la Nuit, qui porte bien son nom, qui s'était créé en 2013, et avec lequel on s'est battu notamment sur la préservation du corridor écologique de l'aqueduc de la Nuit. Et on avait réussi à faire plier la mairie de Paris pour que la mairie de Paris et Hauts de Paris ne vendent pas une bonne partie du tronçon de l'aqueduc de la Nuit à Placoplâtre. Et si ces tronçons avaient été vendus, il y aurait des collines qui n'existeraient plus à l'heure actuelle. Et des milieux naturels qui n'existeraient plus, qui bordaient justement l'aqueduc de la Nuit. Ça, c'était les gros combats qu'on a menés. Un combat très important, hein, qui est sur Chelles, hein, sur Chelles, Gagny et Montfermeil. Hein, c'était la bataille du Mont Guichet, hein, donc de la carrière Saint-Pierre à Gagny et des coteaux du Beauzais sur Chelles. Et on a réussi à préserver pour l'instant 110 hectares sur les 150 qui sont maintenant propriété de l'Agence des Espaces Verts d'Île-de-France, avec notamment la présence aussi d'agriculteurs qui se sont installés. On avait imaginé ce projet-là en 2009. Au lieu de s'opposer, on s'était dit « Attends, c'est peut-être pas mieux de proposer ». Donc on avait proposé justement la revalorisation des terres agricoles en agriculture biologique et les milieux naturels, de les préserver, de ne pas les transformer en parcs, de ne pas les entreposer, de les transformer comme un exutoire de la banlieue. Et pour l'instant, c'est un succès. Mais après, c'est des combats permanents. Parce qu'après, comme diraient les bouddhistes, tout est impermanence. Donc un combat, il est gagné que temporairement. Que vont devenir ces sites-là dans les 10 ans, dans les 15 ans, dans les 20 ans à venir, ça, c'est une autre histoire. Hein. Donc une bataille n'est jamais gagnée. Hein. Une guerre n'est jamais gagnée. On remporte des batailles.
Par rapport au site du Mont Guichet, donc... quel était le projet en fait ? Tu disais de parc loisirs, on va dire ?
Bah après, c'était surtout des projets d'urbanisation, surtout sur la partie gabinienne, hein, sur la partie Gagny. Le Mont Guichet, c'est un massif qui fait 160 hectares, hein, qui est réparti sur 3 communes et 2 départements, donc sur la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne. Et en fait, on avait la mairie de Chelles qui voulait ouvrir une route qui allait éventrer le milieu naturel en deux. La mairie de Gagny qui voulait urbaniser, et en même temps on avait aussi Placoplâtre qui était propriétaire d'une partie des terres grâce à sa filiale Partie 10 qui avait des velléités aussi de reprendre potentiellement l'exploitation ou de valoriser les terres au point d'en obtenir un bon prix. Donc généralement ça veut dire pour de l'urbanisation, quoi. Donc on appelle ça la prédation d'espace, c'est-à-dire que les milieux naturels souffrent de la prédation d'espace pour des milieux, pour des projets d'urbanisme, pour des projets d'infrastructure, ou pour des projets, on va prendre un milieu naturel et on en fait un parc. Ah. Sauf qu'un milieu naturel, c'est pas un parc. Un parc, c'est pour l'humain, quoi. Un milieu naturel, c'est un milieu naturel, c'est le sauvage. Donc les gens confondent encore. Une grosse confusion, finalement, entre un parc. Ah, je suis allé au parc, je suis allé dans la nature. Non, ça, c'est pas un milieu naturel. Ça, c'est pas un milieu où il y a une place pour le sauvage. Une belle pelouse dans un parc, c'est pas une prairie naturelle. Donc ça aussi, ce sont des concepts qui sont importants. Donc on s'est battu sur le Mont Guichet contre l'urbanisation, contre les projets d'infrastructures routières, contre les projets des carriers qui étaient tentés de reprendre l'exploitation, et contre des projets où ils voulaient transformer les milieux naturels en parcs. Donc on avait toutes les menaces réunies sur ce site.
Et il y a une des batailles, c'est toujours un peu d'actualité, c'est le fort de Vaujour. Donc c'est sur la commune de Vaujour, située à 14 km environ au nord-est de Paris, en Seine-Saint-Denis. Que se passe-t-il au fort de Vaujour ?
En fait, le fort de Vaujour, ça a été un gros combat. J'ai été un des gros acteurs de ce combat-là. C'est compliqué de résumer le fort de Vaujour. J'ai le fort de Vaujour, il est aussi sur 3 communes et aussi sur 2 départements. Donc il est en majorité sur la commune de Courtry, en fait. Il est à plus de 60% sur la commune de Courtry, sur la commune de Vaujour. Bah, le fort de Vaujour, c'est quoi ? Déjà, il faut savoir, hein. Le fort de Vaujour, c'est un ancien fort militaire qui a été transformé dans les années 50 en centre d'expérimentation pour le commissariat à l'énergie atomique. Donc c'est un lieu qui est resté secret jusqu'en 1998, car c'est le lieu où on a inventé les détonateurs des bombes atomiques françaises. Donc toutes les bombes atomiques ont été... Le détonateur des bombes atomiques françaises ont été élaborés sur le fort de Vaujour. La première, notamment la gerboise bleue qui a explosé dans le Sahara algérien, elle a été testée, construite au fort de Vaujour. Elle a été transportée du fort de Vaujour au Bourget, l'aéroport du Bourget, et à partir du Bourget, elle a été emmenée en Algérie et elle a été explosée en Algérie. Donc c'est un site qui est maintenant reconnu pour être pollué avec toutes les expérimentations qui ont été faites pendant des années, dont des tirs à l'air libre, des choses comme ça, où en testant notamment les détonateurs des bombes atomiques françaises, ils utilisaient une technique qui s'appelait la détonique nucléaire. Donc c'est la détonique, c'est l'art de la transformation, la déformation des matières au contact de la déflagration, et ça c'est le secret de la bombe. Il y a 2 secrets dans la bombe atomique. Le premier secret, c'est comment on enrichit l'uranium. Enfin, comment on extrait l'uranium 235 de l'uranium métal. Donc ça, c'est le premier secret. Hein, on appelle ça l'enrichissement. Et le deuxième secret, c'est comment on fait exploser tout ça. Et ça, c'est la détonique. Et donc, le fort de Vaujours, à une quinzaine de kilomètres de Paris, est l'endroit où on a inventé, testé à l'air libre, les détonateurs des bombes atomiques françaises. Donc, les explosions à Mururoa, tout ça, c'était là qu'ils les faisaient. Donc, ils faisaient exploser ces détonateurs, non pas avec des matières fissibles, mais quand même avec de l'uranium. Donc, on retrouve des pollutions métaux lourds avec de l'uranium, du beryllium, etc., etc. Un certain nombre de polluants chimiques, etc. Et donc, le fort de Vaujours a été racheté par Placoplâtre, hein, toujours les mêmes. Parce que sur la ville de Vaujours, ils ont la plus grosse usine de transformation de plâtre d'Europe, voire du monde. Et le gisement, il est juste à côté. Donc on a un exploitant qui était prêt à prendre tous les risques pour ses salariés, pour ses sous-traitants, pour les populations riveraines, afin d'exploiter un des sites les plus secrets de France, parce que les activités du fort de Vaujours sont toujours classées secret défense. Donc on ne connaît pas l'étendue des matières, on ne connaît pas l'étendue des risques, ce qui n'empêche pas l'État d'avoir vendu le fort de Vaujours à Placoplâtre, l'État d'avoir pollué le fort de Vaujours et l'État d'accorder le droit d'exploiter sur le fort de Vaujours. Donc le combat, il commence un peu par hasard en 2010, donc c'est un combat qui est en cours encore, hein. Donc ça fait plus de 14 ans, c'est long hein, dans une vie 14 ans, et en fait il commence là où déjà le site, on a l'État, on a Placoplâtre qui disent que le site a été complètement dépollué et qu'il n'y a aucun problème pour une transformation en carrière à ciel ouvert, parce que c'est ça. Une carrière à ciel ouvert où ils veulent exploser la colline et le fort avec des explosifs pour pouvoir faire une carrière à ciel ouvert, pour pouvoir alimenter de façon automatisée l'usine de Vaujours pour faire les fameuses plaques de plâtre BA13 qu'on retrouve dans beaucoup d'habitations en France. Et la première étape du combat, c'était de démontrer que le site était toujours pollué. Ben, on a fait les commandos, hein. On a pris les pelles, on a creusé un soir, on est passé en dessous, on est rentré en toute illégalité sur le fort. On est venu avec des compteurs GGR et en quelques heures de nuit, on a trouvé des zones qui étaient toujours contaminées, qui étaient contaminées par les expérimentations du commissariat à l'énergie atomique. Il a fallu attendre 5 ans pour que l'État reconnaisse que, effectivement, nos mesures étaient exactes. Pendant 5 ans, on nous a traités de menteurs, d'affabulateurs, que nos compteurs ils n'étaient pas bien étalonnés, qu'on avait inventé les mesures, voire même qu'on ait ramené des matières radioactives exprès sur le site pour faire sonner nos compteurs. Donc c'était un gros combat, et puis ce combat-là, il a pris une importance assez importante au niveau médiatique. C'est quand on a découvert que 52% des habitants de la ville de Courtry, hein, parce que le fort de Vaujours est à 60% sur Courtry, décédaient de tumeurs cancéreuses, pendant que les autres communes étaient dans la moyenne nationale aux alentours des 28%, entre 25 et 28%. L'État a refusé de faire les études nécessaires pour essayer de comprendre la réalité derrière ce chiffre statistique. La réponse a été « Ah, mais c'est qu'il meurt moins d'autres choses. » Voilà la réponse qui a été donnée par les services de l'État. Ça ne sert à rien qu'on fasse des études plus poussées pour essayer de comprendre la cause de cette anomalie statistique sur la ville de Courtry. Donc c'est finalement, c'est un combat qui est un demi-échec ou un demi-succès. C'est qu'on a quand même réussi à faire imposer à Placoplâtre des protocoles, même si on considère que ces protocoles sont insuffisants, surtout quand on ne sait pas à quoi on a affaire. Donc on considère toujours que les protocoles sont insuffisants. L'exploitation de la carrière n'a pas commencé, mais ils ont commencé la destruction des bâtiments. Ils en sont à plus de 1500 tonnes de terre contaminée à l'uranium, là, qui sont censées être embarquées et enfouies dans des sites qui sont gérés par l'ANDRA. L'ANDRA qui est l'organisme qui est censé gérer l'enfouissement des déchets nucléaires. Pendant qu'au départ, on nous disait qu'on était des affabulateurs et qu'il n'y avait aucun risque. Là, ils ont même pas décapé les sols, ils ont juste démoli des bâtiments. Ils en sont déjà à plus de 1500 tonnes, 1500 big bags de terre contaminée en cours d'enlèvement par l'ANDRA, quoi. Donc nous, on continue de dire que le projet est une hérésie. Par contre, bon, voilà, l'enquête publique a eu lieu et puis... Et l'enquête publique a été favorable à l'exploitation du fort de Vaujours par Placoplâtre. Donc on suit encore le dossier, mais je pense qu'ils vont l'ouvrir, cette carrière.
Ce qui est étonnant, c'est que... Est-ce qu'il y a eu des relais médiatiques par rapport à cette affaire? Est-ce que Et puis même en termes de mesure, est-ce que c'était au-delà des normes recommandées? Est-ce que vous avez pu mesurer finalement qui a été validé après coup? Et comment on peut laisser quand même une exploitation avec des niveaux de radioactivité pareils aux portes de Paris?
La bataille médiatique, on l'a gagnée sur ce dossier. Le fort de Vaujours, vous faites Google et mon ami, hein. Faites une petite recherche, des documentaires, vous en trouvez partout, vous allez voir ma tête partout. On a tout eu, on a fait France 2, on a fait BFM TV, on a fait TF1, on a fait Arte, on a fait France 3, on a fait les journaux de 20h, on a fait les journaux de 13h, on a fait Enquête Exclusive, on a fait Complément d'Enquête, on a eu des articles dans le New York Times, on a eu des documentaires en Allemagne, donc il y a même eu une résonance un peu internationale de ce dossier-là, parce que là on est vraiment dans quelque chose qui a l'air un peu surréaliste comme ça à expliquer, donc... La presse a beaucoup couvert, donc c'est monté jusqu'aux questions de gouvernement, on a été loin sur ce truc-là. Et en fait, on s'est focalisé sur la radioactivité, mais il y a tout le reste en fait. Notamment, on a la preuve qu'ils ont fait des expérimentations avec du beryllium. Le beryllium est plus dangereux que l'uranium. En cas d'inhalation de poussière de beryllium, il n'y a pas de seuil d'innocuité pour attraper une maladie mortelle des poumons qu'on appelle la berylliose. Est bien connu par les prothésistes dentaires. Donc en fait là on a un cocktail de risques. On a une pollution chimique, on a des pollutions radiotoxiques, dont l'uranium, on a des pollutions métaux lourds, dans lesquelles on peut mettre le beryllium, et on a des restes d'explosifs de la Seconde Guerre mondiale qui sont là. Donc, ils en sont aussi à plusieurs tonnes d'explosifs non explosés à devoir sortir. Donc on se retrouve avec un cocktail de pollution qui est incroyable. Plus derrière, on a des pollutions à l'amiante, on a dans les bâtiments, on a des pollutions au PCB, parce qu'il y avait énormément de transformateurs au PCB qui ont été percés et vidés au niveau du sol du fort. Donc le sol, il est pourri de partout. Donc il y en a un cumul de pollution qui est considérable, en fait. C'est un cocktail. Là, on a affaire à un cocktail. Je pense qu'on est sur le site le plus pollué d'Île-de-France, voire un des sites les plus pollués de France.
Si je résume, en fait, pour Placoplâtre, c'est un intérêt économique, puisque l'usine, elle est à côté. Donc, en fait, même s'il y a des risques, etc., économiquement, c'est super intéressant pour eux. Du coup, c'est juste à côté, ça peut être transmis tout de suite à l'usine, et c'est pour ça qu'ils veulent continuer à exploiter, plutôt que d'aller ailleurs, en fait.
Disons, Placoplâtre et le groupe Saint-Gobain, ils ont réussi à classer le plâtre en ressources stratégiques nationales. Le plâtre, il n'a aucune fonction dans une maison. Aucune. Il n'isole pas. Le plâtre, en soi, n'isole pas. Au mieux, il régule l'hydrométrie des pièces. Parce qu'il va absorber un peu d'humidité et il va le restituer. Parce que le plâtre absorbe l'humidité. Et le restitue quand il sèche. Et c'est tout. Il n'isole pas. Il n'a pas d'isolation phonique. Rien. Que dalle. On a vendu le BA13 comme un instrument de parement pour permettre d'avoir des murs bien lisses et bien blancs. Mais en fait, il n'y a rien. Que dalle. Et en plus, le plâtre est recyclable comme le verre. Comme le verre. Donc là, on a une ressource qui est recyclable à l'infini comme le verre, qui n'est pas recyclé, ou sinon de façon symbolique pour faire bien devant la presse. Mais on a une ressource, là, quand vous jetez un carreau de plâtre en déchetterie, ça va au tout venant. Il n'y a pas une benne à ordures spéciale plâtre. Donc il n'y a pas de filière réelle de recyclage du plâtre. Donc là, on a un industriel qui est prêt à prendre tous les risques. Pendant que le plâtre, il est recyclable, il est prêt à faire en sorte d'être entendu par les services de l'État pour que le plâtre soit classé en ressources naturelles stratégiques. Et donc, ils ont réussi, parce que nous, on avait réussi à avoir les communes avec nous, on avait réussi à avoir la population avec nous, on avait réussi à avoir la presse avec nous. Et alors, on a l'État qui a classé le fort de Vaujours comme étant une ressource prioritaire au niveau national. Et donc toutes les communes ont dû mettre en conformité leur plan local d'urbanisme, même si elles n'étaient pas d'accord contre l'exploitation. Donc la démocratie locale a été bafouée, les citoyens ont été bafoués, tout le monde a été bafoué dans cette histoire. Et là, on a la toute-puissance de l'influence et des lobbies qui fait que voilà quoi. Même quand on gagne la bataille médiatique, quand on gagne la bataille des cœurs, quand on gagne la bataille des preuves, des fois ça suffit pas pour gagner un dossier en fait. Donc on a gagné la bataille des preuves, on a gagné la bataille des médiatiques, on a gagné la bataille de la mobilisation locale, on a même gagné la bataille de la mobilisation nationale, puisqu'on avait fait une pétition à l'époque qui avait été signée par 130 000 signataires. Donc dans ce combat-là, en fait, normalement, sur le papier, on doit gagner, quoi. On avait relancé un peu, voilà, comme ça, parce que pour faire pression sur l'enquête publique, pour être honnête, voilà, je veux dire, on sait qu'on va se faire plier, mais c'est pas grave, ça. Parce qu'en fait, gagner ou perdre, c'est secondaire, en final. On se pose souvent la question, ouais, mais vous perdez tout le temps, machin. Déjà, on n'a pas perdu tout le temps, mais même, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, c'est comme je disais, hein, quand on aime, on préserve. Moi, je pense à toutes ces populations qui vivent autour, à tous ces sous-traitants qui vont au charbon, qui prennent des risques sur ce chantier-là. Et finalement, en fait, on ne se bat pas tellement pour gagner, on se bat pour eux. Parce que quand on sait ça, quand on est au courant, ne rien faire, finalement, c'est cautionner. Voilà, c'est tout. À des moments, si on a l'énergie, parce que des fois, on n'a pas toujours l'énergie, et si on peut se permettre de ne pas cautionner, faisons-le.
Comment la présence de certaines espèces protégées peuvent permettre, réellement ou pas d'ailleurs, de protéger des zones naturelles contre les destructions, comme tu disais?
Alors c'est un vaste sujet, ça. Déjà, la présence d'espèces protégées dans un milieu naturel ne signifie pas qu'on peut protéger le milieu naturel, puisqu'il peut y avoir des dérogations. La DRIE peut donner des dérogations. Pour dire, ah oui, d'accord, effectivement, il y a des mares avec des amphibiens classés dans les mares. Mais écoutez, on va faire une dérogation, comme quoi l'industriel va pouvoir détruire ou le projet d'urbanisme, ou le projet de la mairie, ou les projets des aménageurs vont pouvoir détruire ce milieu naturel. Mais ils vont faire une petite mesure de compensation, voilà, donc en mesure de compensation, ils vont planter quelques arbres ailleurs, où ils vont faire une décharge sur un milieu naturel, mais à la fin de la décharge, ils mettront un peu de terre végétale et puis ils replanteront des arbres. Donc en fait, on se retrouve avec énormément de dérogations comme ça.
La DRIE, c'est...
C'est la direction régionale de l'industrie et de l'environnement. Et donc on se retrouve, voilà, d'avoir des espèces protégées sur un territoire ne veut pas dire qu'en cas de pression... puisse pas y avoir de dérogations qui soient prises. Alors après, il y a une petite différence avec les espèces qui sont classées Natura 2000, parce que Natura 2000 c'est au niveau européen. Donc le lobbyiste, c'est plus dur pour lui, parce que là, il doit agir au niveau européen. C'est pour ça que des fois, nous, on recherchait les espèces Natura 2000, parce que c'était plus dur pour contourner. Voilà. Donc je me rappelle notamment sur le bois de Brou, sur Chantraine, donc juste derrière. Donc c'était un bois qui était privé et qui allait être acquis par l'Agence des Espaces Verts. Et ben nous, juste avant l'acquisition, c'est pas qu'on est... On travaille très bien avec l'Agence des Espaces Verts, mais on sait très bien que l'Agence des Espaces Verts appartient à la région, donc si les politiques leur disent de faire quelque chose ou de revendre des terres qui appartiennent à l'Agence des Espaces Verts d'Île-de-France, et ben ils peuvent céder. Hein, donc nous, c'était important... avant l'acquisition de l'Agence des Espaces Verts, de bien vérifier s'il n'y avait pas le triton crété, parce qu'on savait que le triton crété était classé au niveau Natura 2000, donc si c'est Natura 2000, c'est européen. Donc ça devenait plus dur à contourner qu'une espèce protégée au niveau régional ou uniquement au niveau national. Mais en tout cas, faut bien prendre en considération que ce n'est pas la présence d'espèces protégées, que ça soit végétale ou animale, sur un espace qui est en mesure de le protéger.
Lors d'une balade à la découverte des orchidées sauvages que tu organisais au Mont-Guichet, dont tu as parlé tout à l'heure, tu avais dit que planter des arbres et des forêts, ce n'est pas forcément bon et qu'il faudrait conserver des prairies. Pourquoi tu dis ça?
Alors ça, c'est quelque chose que beaucoup de naturalistes en France, c'est un message qui ça fait 20 ans, 30 ans qu'on essaie de le faire passer, et ça passe pas, ça rentre pas. C'est-à-dire qu'on a une vision que la nature, c'est la forêt. La forêt n'est qu'une partie de la nature. C'est-à-dire qu'on a tendance à confondre la place de la forêt, c'est-à-dire dans les forêts tropicales, où là, effectivement, l'arbre est le tuteur de vie, que s'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de vie. Donc on a transposé ce principe-là dans notre perception des forêts de l'hémisphère nord. Donc en fait, la dynamique de la biodiversité en Europe, sous nos latitudes, c'est pas du tout la même. Les forêts doivent mourir. Les forêts sont faites pour mourir. Donc il y a un cycle de vie, normalement il y a un cycle de vie et de mort des forêts. Donc le premier cycle, c'est le cycle pionnier, il n'y a rien. Minéral, il n'y a même pas d'humus, quoi. Ça c'est le premier niveau. Le premier niveau, c'est il n'y a rien. C'est le milieu pionnier. Il y a une biodiversité des milieux pionniers. Il y a des plantes et des animaux qui ne vivent, qui sont inféodés au milieu pionnier. Après, on a une phase de prairie. Donc dans les prairies, il y a aussi un écosystème des prairies. Après la prairie, il y a ce qu'on appelle la phase arbustive. Les premiers arbustes, la ronce, des choses comme ça qui commencent à pousser. Après, il y a les arbres pionniers. Les bouleaux, les peupliers, les choses comme ça. Etc, etc. Après, on va avoir des chênes. Mais après, on va avoir le hêtre qui pousse dans l'ombre du chêne. Et à un moment donné, le hêtre, il devient plus haut que le chêne. Il prend toute la lumière du chêne. Il tue le chêne. Et à la fin, il n'y a plus que des hêtres. Et sous les hêtres, il n'y a plus de lumière. Donc après, on se retrouve avec une forêt qui est terminée, qui est une forêt de hêtres, une hêtraie, où il n'y a plus que des hêtres. Et en dessous, il y a quelques fougères, quelques trucs. Mais à un moment donné, tous ces vieux hêtres, ils sont tous vieux, ils ont toutes. Il n'y a même pas de jeunes êtres qui poussent en dessous parce qu'ils prennent toute la lumière. Ben, ils meurent tous d'un coup. Et après, ça recommence. On repasse du milieu pionnier, on repasse du milieu prairial, on repasse du milieu arbustif, on repasse au niveau forestier, on repasse dans la dominance du hêtre, dans la dominante du hêtre, et ça recommence. Et ce cycle-là, il recommence. On a aussi des semences qui s'activent avec le feu. Donc l'incendie fait partie de la vie et de la mort des forêts. Il y a des semences qui s'activent avec le feu, avec la chaleur du feu. Donc on se rend compte que le vivant, il doit être composé de cette diversité. Ce qu'on appelle le milieu ouvert, qui est la prairie, les milieux pionniers, et les milieux fermés, qui sont les milieux forestiers. On a des animaux, par exemple, qui vont nicher des oiseaux, par exemple la buse variable, elle va nicher dans les arbres, elle va chasser en prairie. Donc l'équilibre du vivant, il n'est pas en ayant que de la forêt, donc que des milieux fermés. Il faut aussi des milieux ouverts, mais des milieux ouverts qui ne sont pas des champs. Parce qu'en fait, on se balade dans la campagne, bah souvent, on voit un bosquet, une forêt communale et des champs. Le champ, on sait ce que c'est. Hein. Le champ, c'est la mort, c'est stérile, il n'y a rien. Vous ne voyez même plus un papillon dans les champs. Par contre, dans les prairies naturelles, on les voit, les papillons. Donc on se rend compte que le milieu qui a le plus régressé en France, c'est la prairie naturelle. On a une forêt qui est en croissance. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 20, en 1920, on était à entre 15 et 16% d'espaces boisés en France. Là, aujourd'hui, on n'est pas loin des 30%. Donc on a une forêt qui a doublé en volume en un siècle. La France est le pays le plus boisé d'Europe. Alors pas forcément avec une qualité de boisement. Hein. On l'a vu dans les Landes, avec c'était que du résineux, tout a brûlé. Pendant qu'originellement, c'est pas du résineux qui devait pousser là. C'est une plantation humaine. Voilà. Et en plus, la forêt en France, il n'y a aucune forêt primaire en France. Aucune. C'est-à-dire qu'on va couper les hêtres pour laisser vivre les chênes, quoi. C'est un peu ça le truc. Vous voyez, on va faire pousser des pousses rapides, du Douglas, du pin sylvestre, des choses comme ça. Donc déjà, même si déjà la forêt, on la laissait vivre et mourir normalement, si on laissait les forêts primaires vivre, ça serait déjà bien. Donc déjà, on a des forêts qui sont maintenues. Hein. Par exemple, là, il y a des incendies dans les Landes, ils vont replanter des pins. Hein. Voilà. Ils vont même pas laisser le cycle reprendre après l'incendie, etc., etc. Non, on va pas le faire. Nous, moi, ce que je sais, c'est que dans les Landes, s'ils replantent pas, on revient dans 5 ans, il y a plus de biodiversité qu'avant l'incendie. Parce que les pins en dessous, ça acidifie le sol. En dessous, les pins, il n'y a rien. Il y a les pins, et en dessous, on a sol acide. Et en plus, on a des couches d'épines de pin. Donc là, c'est pas là qu'on va avoir des papillons, la terre est devenue acide, acidifiée. Donc on se retrouve dans un milieu acide, uniquement acide. Donc la biodiversité, c'est la diversité. C'est la diversité des terres, parce que la terre fait partie, le sol fait partie. C'est-à-dire que ce qui est important dans la protection du vivant, ça passe par la protection des sols. Plus un sol est pauvre, moins il y a de biomasse. Mais plus il y a d'espèces différentes, plus il y a de biodiversité. Plus une terre est riche, plus il y a de biomasse, moins il y a d'espèces. Bah, tout de suite, on va avoir la ronce qui arrive, on va avoir les plantes qui aiment l'azote qui arrivent, et on se retrouve tout de suite avec des plantes qui vont tout prendre, en fait. Donc, plus la terre est pauvre, plus il y a d'espèces différentes qui se font pas concurrence, parce qu'il n'y a pas assez de nutriments pour se faire concurrence. Sinon, après, il y a la concurrence. Donc, on se rend compte que le respect des sols, il n'y a pas les mêmes biotopes sur une terre azotée, que sur une terre acide, que sur une terre calcaire, ou une terre calcaire détrempée, ou une terre rocailleuse, etc., etc. Et c'est ça qui est important. C'est déjà préserver les sols. Et après, c'est aussi préserver la dynamique naturelle des milieux. Et parfois, la catastrophe fait partie de la nature. Parce que c'est la disparition qui permet la renaissance.
Pour faire le lien avec l'exploitation des carrières en Île-de-France ou ailleurs, moi j'avais été visiter les terrils à Los Angeles, et effectivement ils nous expliquaient qu'il y a une nouvelle biodiversité qui se développait sur les terrils. Donc est-ce que justement les carrières, c'est aussi une bonne chose pour recréer des milieux qui vont accueillir des nouveaux... il y a un effet positif de la carrière, en fait, de l'extraction des matières du sol.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que lorsqu'on a d'anciennes carrières de plâtre, où l'exploitation s'est juste arrêtée, il n'y a pas eu d'apport de déchets pour combler le trou, il n'y a pas eu de pollution, l'exploitation s'est arrêtée, point. Effectivement, on repart d'un niveau pionnier, qui est le milieu calcaire. En Île-de-France, on parle de... C'est surtout des terres de gypse, hein, terres gypsifères, du calcaire de Brie ou des choses comme ça. C'est surtout des terres calcaires qui sont issues de l'époque où l'Île-de-France était une lagune. Le lagunage a permis la création de strates de terres calcaires par précipitation chimique, hein, dont le gypse, et l'apparition de marnes ou des choses comme ça. Donc effectivement, si on a une carrière qui arrive, ils font un trou. Effectivement, il y a toutes les strates géologiques vont être mises à nu. Le plâtre, les marnes, les calcaires, etc. Et là, on va se retrouver avec un milieu pionnier, etc. Mais c'est pas ça qui se passe. C'est comme les gravières, par exemple. On a des gravières sur les bords de la Seine ou les bords de Marne. À la fin, les gravières, comme elles sont au-dessus du niveau de la nappe phréatique, quand ils ont arrêté les gravières, ils ont arrêté de pomper, l'eau est montée et ça fait des lacs. Et après, avec les lacs, ça a créé des milieux naturels autour des lacs. Est-ce que ça veut dire que les gravières sont utiles à... aux vivants, c'est pas sûr. Mais si on parle des carrières, notamment des carrières de gypse, carrières de plâtre en Île-de-France, que 60% des gisements de plâtre en France sont en Île-de-France, disons que c'est plus le cas maintenant. Puisque maintenant, ils font une fosse de 50-60 mètres de profondeur, et après ils le comblent avec du déchet du BTP, soi-disant déchet inerte, et des contrôles olfactifs. C'est-à-dire que le camion, quand ils vont déverser 1000 camions par jour, et qu'ils vont déverser leur contenu pour remplir ces fosses-là, voilà, il y a un contrôle olfactif. Olfactif, c'est les yeux, le nez, les oreilles. Ils ne le goûtent pas, donc je ne pense pas qu'ils vont goûter. Mais il n'y a pas de contrôle de la lixiviation de ces déchets-là. Voilà, la lixiviation. Le lixiviat, c'est que quand on a une décharge, quand il pleut, et ben, l'eau s'infiltre dans le déchet, et à la fin, ça fait un jus. Et le jus, c'est ce qu'on appelle le lixiviat. Et dans une carrière où on ne stocke pas de déchets inertes, il y a le contrôle obligatoire des lixiviats, qui permettent de vérifier s'il n'y a pas des saloperies non prévues qui ont été stockées. Là, dans la mesure que le déchet il est inerte, et qu'on a une confiance absolue dans les contrôles de ces milliers et milliers de camions qui vont remplir des millions et des millions de mètres cubes, vu qu'on a une telle confiance dans tous ces camions-là, il y a une telle confiance dans les contrôles, et ben les lixiviats ne sont pas contrôlés. Sur le fort de Vaujour, les lixiviats ne seront pas contrôlés. Donc ce sont les déchets inertes. Sont-ils vraiment inertes? Ça, c'est une autre histoire. Justement, ces carrières-là, ces gouffres, parce que c'est des gouffres, hein, des gouffres de... Ah, on a la carrière de Villevaudet-le-Pin, Quand ils vont la combler, on parle de 13-14 millions de mètres cubes de déchets qui vont être mis là, de déchets inertes. Le déchet inerte, lui, il n'a rien de naturel. C'est pas un sol naturel, le déchet. C'est un mélange de ciment, de cailloux, d'extraction de terre, tout ça c'est mélangé. C'est pas une terre qui existe en fait. Et après, ils disent qu'ils vont rajouter un peu de terre végétale dessus, puis ils vont planter des arbres. Donc en fait, de dire maintenant que les exploitations à ciel ouvert de plâtre vont créer des milieux naturels, c'est faux. Ils vont créer des buttes de déchets inertes sur lesquels ils vont planter des arbres. Mais ils vont dire qu'ils ont rendu le site à la nature en fin d'exploitation.
Et sur lequel ils invitent les familles à venir se promener.
Ils invitent les familles, oui, où ils font même des visites qui montrent, regardez, pendant 50 ans, on va tout détruire. Mais dans 50 ans, si vous êtes toujours vivant, c'est possible que vous, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, vont pouvoir venir se balader sur les arbres qui auraient été plantés sur la montagne de déchets inertes. Donc voilà. Alors par contre, nous, on a d'anciennes carrières qui n'ont pas été remblayées par des déchets, qui datent d'une centaine d'années, dont certaines exploitations se sont arrêtées il y a 70-80 ans. Qui effectivement sont devenus sont revenus à la vie sauvage. Comme il y a des trous, des galeries, des trucs, la prédation pour urbaniser est plutôt faible. Et en fait, on arrive parfois à des milieux naturels d'exception. Les plus beaux milieux naturels du nord de la Seine-et-Marne, ce sont dans les anciennes carrières. Ce sont les anciennes carrières de plâtre. Mais il n'y a pas de déchets dedans. Ils n'ont pas été comblés par des déchets. Par contre, toutes les nouvelles carrières, ben, en fait, elles se transforment après en décharge de déchets. Dit inerte. Mais il y a quand même déchets de temps. Le terme, il y a déchets. Donc voilà quoi. Et en plus, ils gagnent de l'argent. Hein, parce que l'exploitant, il gagne de l'argent en creusant le trou. Et il gagne de l'argent en remplissant le trou. Hein, parce que c'est tous les déchets du Grand Paris, notamment, qui sont en train d'aller dans ces carrières-là. Là, tous les travaux du Grand Paris, là, qu'on voit là. Toutes les terres d'excavation, elles vont où? Eh ben, elles vont dans ces carrières-là. Elles vont combler les trous. Hein. Les plus de 50 millions de mètres cubes. Du chantier du Grand Paris, ils vont combler les fosses des anciennes carrières de plâtre.
Ou faire une piste de VTT, il me semble, c'est ça, non? C'est pas la piste de VTT pour les Jeux Olympiques dans les Yvelines? Non, t'es pas au courant.
Pas tous les dossiers.
Pourquoi et comment se battre encore donc en 2024 contre les projets de destruction de zones naturelles, mais surtout, bon, pourquoi on le sait, mais comment, quels sont les moyens d'action? Pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut faire en fait à notre niveau? Quel collectif rejoindre? Quels moyens d'action, de pression, qu'on soit derrière un ordinateur ou sur place en allant se battre? Je sais pas, est-ce qu'il faut tous qu'on rejoigne les soulèvements de la terre ou des associations locales? Voilà, quels sont les moyens d'action selon toi?
Alors déjà, avant de répondre à cette question à tiroir, hein, je pense que pour tout militant, il est important de se poser la question de savoir pourquoi on se bat en fait. Est-ce qu'on se bat pour notre ego, notre image, l'image qu'on donne au monde, ou choses comme ça? Ou est-ce qu'on se bat par amour, en fait? Parce que quand on aime, je répète, hein, quand on aime le vivant, quand on s'extasie devant un renard qui passe, quand on s'extasie devant un hérisson qui passe, une orchidée sauvage, une fleur, n'importe laquelle, hein, qu'on passe, qu'on voit le petit massif d'orties et qu'on mange la petite ortie fraîche après l'avoir froissée, quand on aime un milieu, eh ben on le préserve. Quand on aime, on préserve. Quand on aime, on soigne. Au même titre qu'on va s'occuper de sa famille, de s'occuper de ses parents, de s'occuper de ses amis, c'est pareil. Donc déjà, savoir où vient l'énergie. Parce que l'énergie, c'est l'ego, etc. Ce sont des combats qui sont tellement difficiles, avec des probabilités de gagner qui sont faibles. C'est pas le bon motif, quoi. Le motif, c'est on aime et on se bat pour ce qu'on aime. Et si on aime un milieu naturel, parce que c'est chez nous, voilà. C'est pour ça que pour moi, d'abord, avant d'aller militer, militons localement. Localement. Parce qu'il y a des milieux naturels, là, qui sont en danger partout en Île-de-France. Partout. Donc déjà, si on se bat localement pour les endroits qu'on aime, là déjà, on est quand même dans une forme de pureté du combat, quoi. Parce que si vous vous amusez à militer avec les grandes ONG, là, bah, WWF, etc., etc., les grandes ONG, ils sont tellement loin du terrain, tellement éloignés du terrain, que moi à titre personnel, j'ai pas dépensé une seule seconde de ma vie dans des grandes ONG comme ça, parce que je les trouve déconnectés, en fait, du terrain et de la réalité. Enfin, moi, c'est mon avis. Les grandes fédérations, c'est pareil. Donc moi, si j'ai un conseil, qui est un conseil qui m'est personnel, j'espère ne pas dire de mal de ces grands organismes et ne pas les avoir après sur le dos. J'ai déjà eu assez de gens sur le dos comme ça dans ma vie. C'est de se rapprocher des associations locales, ou voir des fédérations locales, ou voir d'agir en tant qu'individu propre, quoi. Ou en créant soi-même, ou en voyant avec les voisins. Vous avez un beau milieu naturel qui va disparaître, là, à côté de chez vous, que vous aimez. Regroupez-vous par rapport à ce que vous aimez, quoi. Donc c'est ça qui est important, quoi. Voilà, nous, sur les dossiers qu'on a menés, on s'est rendu compte que, voilà, que dans les grandes fédérations, parce que les associations de protection de l'environnement, notamment, il y en a qui sont départementales. Après, il y a une fédération régionale, donc il y a une association régionale qui chapeaute les associations départementales. Et après, il y a les associations régionales qui sont chapeautées par France Nature Environnement. Nous, sur certains dossiers, dont le fort de Vaujours, on n'a jamais eu le soutien de France Nature Environnement. On n'a jamais eu le soutien d'Île-de-France Environnement. Dans Île-de-France Environnement, il y a eu à certaines époques des gens qui ont siégé à la Fondation Placoplâtre. Donc on se rend compte que tous ces grands organismes sont. Il peut y avoir dans ces grands groupes, dans ces grandes ONG, des chaises musicales et
elles sont vérolées par ces industriels, peut-être.
Ouais, elles sont par des politiciens déguisés, par des industriels déguisés, partout, quoi. Voilà. Parce que là, c'est le pouvoir qui compte. Eux, ils sont pas là par amour, ils sont là parce qu'ils veulent être importants. Ils veulent discuter avec le préfet, ils veulent rencontrer le ministre, ils veulent se sentir exister, en fait. Donc quand on porte les projets par l'ego, et que c'est l'ego qui compte, c'est même plus la cause qui compte. Donc quand c'est plus même plus la cause qui compte, c'est la porte ouverte à tout, quoi. Voilà, moi j'ai personnellement vu trop de choses en presque 20 ans de militantisme pour faire confiance aux grandes ONG, etc. Quand on est actif, quand on est animé par ça, et qu'on évite de dire voilà, je vais aller dans une grande ONG pour aller distribuer des tracts, voilà, ça sert à rien, ça. Où il manque des forces, c'est dans la mobilisation locale. Donc, moi, si j'ai un message à donner, c'est que investissez-vous dans les combats locaux des endroits autour des problématiques et des combats locaux et au niveau des problématiques qui vous concernent directement. Parce que tous ces grands organismes, en fait, ils court-circuitent, voilà, les forces vives. Alors, mais voilà, la poudre de pimpin, là. Venez localement, venez vous battre localement. Venez faire des vrais combats locaux. Et là, le combat, avec cette dynamique de l'amour, là, c'est là qu'il faut aller, quoi. Voilà, si j'ai un message positif à donner, là, arrêtons de donner nos forces vives à ces grands organismes, à ces grandes ONG. Venez vous battre localement, venez vous battre dans les associations locales. Et c'est les associations locales, il y a très peu de gens, en fait. Parce que justement, une bonne partie des forces vives sont court-circuitées par ces grands organismes qui, pour moi, sont déconnectés du local et voire même déconnectés de leur propre mission.
Christophe Nedelec, merci beaucoup de nous avoir partagé tes combats. Donc, on a bien compris que c'est jamais gagné d'avance. C'est des combats au quotidien, c'est des combats locaux et qu'il faut rejoindre donc les mobilisations locales autour de chez soi. Tu as également un message très positif sur la régénération, on va dire, des milieux et qu'il faut laisser faire la nature, si j'ai bien compris. On est d'accord ? Merci beaucoup, Christophe.
Merci beaucoup, et puis j'espère ne pas vous avoir trop perturbé avec certaines réponses qui sont normalement des réponses qui ne sont pas apportées.